En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Comment comprendre l'incroyable essor du Brésil depuis 25 ans ? Alain Rouquier, excellent connaisseur des pays d'Amérique latine et particulièrement du Brésil, où il fut ambassadeur de France entre 2000 et 2003, a été invité à exposer devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance le lundi 14 mai 2012 la trajectoire, les forces et les faiblesses aussi de ce dynamique pays émergent. Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances, vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bassit-Bruguière, qui présente en le résumant le parcours d'Alain Rouquier, président de la Maison d'Amérique latine à Paris.
Nous avons évoqué dans les mois avant notre arrêt printanier des problèmes généraux. Et maintenant, nous allons aborder, avec les beaux jours, des déplacements géographiques pour apercevoir les réalités du monde sous différents angles, plus concrets, selon le regard de différentes sociétés, parce que, comme l'écrivait Fontenelle, rien ne devrait nous intéresser davantage que de savoir comment est fait ce monde que nous habitons. Je remercie M. Alain Rouquier d'avoir accepté de nous faire traverser d'abord l'Atlantique pour comprendre la dynamique de l'essor du Brésil. Ce pays dont on a toujours vanté les espaces et les ressources, vous vous rappelez que dans l'opérette, on chante « Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro ».
Vous pouvez le chanter si vous
voulez. Non, je ne vous le demande pas. Ce pays semblait englué dans un cycle infernal de coups d'État militaire, que M. Rouquier a d'ailleurs décrit, et de sous-développement, et il joue aujourd'hui un rôle international majeur. Il a été à l'origine de la création du groupe dit BRICS, des pays émergents. Sa croissance intérieure s'affermit sur des bases assez spécifiques, des bases singulières. Pour nous éclairer sur ces transformations considérables, vous combinez, monsieur l'ambassadeur, à la fois les compétences d'un savant et une très longue expérience vécue de la politique, de l'administration et de la société brésilienne. En effet, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé d'espagnol, avec également des diplômes de sociologie, un doctorat de sciences politiques et un doctorat ès lettres. Vous avez été 20 ans chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques, de 1967 à 1986, et en même temps, de 1981 à 1985, membre du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. Vous avez alors entamé une vraie carrière diplomatique au Mexique, au Salvador, au Mexique, à la tête de la direction d'Amérique au Quai d'Orsay, puis en Éthiopie, au Brésil, où vous avez été ambassadeur de 2000 à 2003. À votre retour en France, vous avez pris la présidence de la Maison de l'Amérique latine, que vous occupez toujours. Vous avez beaucoup publié, je ne citerai pas tout, je mentionnerai simplement « Pouvoir militaire et société politique en Argentine », sorti en 1978, les partis militaires au Brésil en 1980, l'État militaire en Amérique latine en 1982, guerre et paix en Amérique centrale de 1994, à l'ombre des dictatures, la démocratie en Amérique latine en 2010, et ce qui m'a incité particulièrement à vous inviter, le Brésil au XXIe siècle, naissance d'un nouveau grand, paru chez Fayard en 2006. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole et nous vous écouterons avec plaisir.
Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, je remercie la Présidente de son invitation et je remercie cette prestigieuse compagnie de m'avoir demandé d'intervenir aujourd'hui sur le Brésil. Je suis d'autant plus honoré d'être ici aujourd'hui qu'il y a 30 ans, un des ouvrages que cité, Madame la Présidente, avait été couronnée par l'Académie. C'était « Pouvoir militaire, société politique en République argentine » et on n'était pas loin du Brésil. J'ai bien compris que la séance d'aujourd'hui autour du Brésil s'intègre dans vos travaux sur les forces neuves du monde actuel et donc en particulier sur les pays dits émergents et donc dans la courte introduction aux échanges que nous aurons tout à l'heure, j'ai pensé utile de centrer mon propos sur la montée en puissance du Brésil, ses moyens, ses raisons et ses limites. Si j'avais à donner un titre à cette brève intervention, ça serait quelque chose comme le Brésil, de l'éternel pays du futur au nouveau grand du XXIe siècle, avec ou sans point d'exclamation. La montée en puissance du Brésil au XXIe siècle est sans doute un des événements les plus surprenants et les plus inattendus du monde d'aujourd'hui, beaucoup plus en tout cas que l'émergence ou la réémergence de la Chine et de l'Inde. Je voudrais tenter d'éclairer la trajectoire d'émergence du Brésil en rappelant brièvement l'ampleur de la transformation opérée et les références et les manifestations du statut actuel de ce pays. Et puis je vous proposerai quelques pistes pour saisir les sources et les raisons de la montée en puissance brésilienne avant d'évoquer les forces et les faiblesses du Brésil qui conditionnent la pérennité de la tendance ascendante que nous constatons aujourd'hui. Sur le premier point, il n'est pas inutile de comparer deux moments du Brésil, deux moments de l'histoire contemporaine du Brésil pour juger du chemin parcouru et pour juger du véritable bond en avant accompli au XXIe siècle. La première date, c'est 1985. Après 20 ans de régime militaire, la démocratie est rétablie, mais la reconstruction d'institutions représentatives stables a lieu au Brésil sur fond d'inflation galopante et de récession économique. Le plus grand pays d'Amérique latine, connu pour ses prospérités cycliques et ses cycles tout court, du sucre, du caoutchouc, du café, pour ses contrastes sociaux et régionaux criants, apparaît, malgré sa taille et ses ressources, comme un géant au pied d'argile et comme un pays d'avenir qui le restera, selon la formule convenue et malveillante que vous connaissez. 25 ans plus tard, l'éternel pays du futur semble s'être réveillé, avoir enfin embrassé le présent. Il laisse désormais, et c'est une comparaison qui est nécessaire, loin derrière lui, ses rivaux continentaux. L'Argentine, plus riche que le Brésil jusqu'en 1950, ne représente plus qu'un cinquième du produit intérieur brut brésilien et moins que le seul État de São Paulo. Le Mexique égalait le Brésil il y a encore 20 ans. Son économie n'est plus que la moitié de celle du Brésil. Le Brésil côtoie désormais les nouveaux grands périphériques, expression brésilienne, au sein d'un regroupement arbitraire et hétérogène, baptisé le BRIC, avec ou sans S, suivant qu'on lui donne une dimension africaine ou pas. Son produit intérieur en dollars constants est supérieur à ceux de l'Inde et de la Russie. Et seul ce dernier dépasse le Brésil en produit par tête. Le Brésil a été pendant longtemps, dans les années 90, la 9e économie mondiale. Elle l'était encore en 2000. Et selon des prospectivistes tout à fait sérieux, le Brésil devait devenir la 4e puissance économique mondiale entre 2030 et 2050. Or, en fait, dès 2012, selon des sources britanniques, le Brésil aurait dépassé le Royaume-Uni et se trouverait à la 6e place de ce classement mondial, talonnant même, selon les Brésiliens eux-mêmes, notre propre pays. Il est vrai que la réévaluation de la monnaie brésilienne a beaucoup contribué à ce changement dans le classement. Aussi, le Brésil s'impose-t-il comme une puissance régionale sans rival. Il est devenu le leader irrésistible, mais non incontesté, l'histoire est toujours là, de l'Amérique latine. Il s'efforce d'ailleurs de regrouper autour de lui l'Amérique du Sud, d'abord avec le processus d'intégration économique du Mercosur dans les années 90, puis le projet beaucoup plus politique et stratégique et beaucoup moins commercial et économique de l'UNASUR, l'Union des Nations d'Amérique du Sud, lancée à partir de la fin de l'année 2000. Sa puissance régionale, le Brésil l'a montré en bloquant de façon déterminée et semble-t-il définitive le projet nord-américain de zones de libre-échange des Amériques, ALCA en espagnol ou en portugais. Au sommet des Amériques de 2005, le projet panaméricain a été paralysé et depuis, on n'en a plus reparlé au sommet suivant des Amériques, que ce soit celui de Trinidad-Tobago en 2009 ou celui de Colombie, de Cartagena, en 2012. Le Brésil, à l'échelle globale, a joué un rôle de premier plan à l'Organisation mondiale du commerce et notamment au cycle de Doha, même si celui-ci est en panne aujourd'hui, des négociations commerciales multilatérales. Membre du G20, il est candidat à un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, car le Brésil exige désormais un rôle à sa mesure dans un ordre mondial en train de changer de centre de gravité. Alors la question que je me pose, que l'on doit se poser, me semble-t-il, est comment rendre compte de cette promotion relativement rapide, cette promotion internationale, quelles en sont les raisons, quels sont les facteurs qui l'ont rendu possible et quelles en sont les limites. En un mot, pour résumer, compte tenu de l'histoire économique sinusoïdale du Brésil, l'envolée actuelle relève-t-elle d'une mutation attendue et inscrite dans la durée ou bien d'un nouveau cycle conjoncturel par nature éphémère? Deuxième point, les ressources et les moyens de la puissance. Je passerai très rapidement, je n'allais pas faire un inventaire des avantages naturels et de l'énorme potentiel de ressources que le Brésil a mis longtemps à exploiter pleinement. Je voulais simplement rappeler quelques données qui parfois sont oubliées et nous pourrons revenir sur ce point dans nos échanges ultérieurs. Le plus vaste pays tropical du monde, avec quelque 20% des ressources d'eau douce de la planète, une pluviosité relativement bien répartie, la fertilité de ses sols, un ensoleillement généreux, avait vocation à être une des toutes premières puissances agricoles mondiales. Il est en train de le devenir, de devenir un des greniers du monde, grâce à des rendements élevés et de faibles coûts de production. Et là, je voudrais mettre l'accent sur la recherche agronomique. La recherche agronomique performante que le Brésil a mis en œuvre a permis de cultiver des savanes arbustives et des zones désertiques. Je voudrais donner deux exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Autour de Brasilia, il y a, où j'ai passé quelques années, il y a un état qui est l'état de Goiás. L'état de Goiás, ce sont essentiellement une savane arbustive où on mettait une vache par kilomètre carré et ça n'allait pas plus loin. Et puis aujourd'hui, c'est devenu le centre de la culture du soja et des céréales. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu des améliorations des sols grâce à l'avancée scientifique de l'agronomie brésilienne. Vous avez évidemment entendu parler du polygone de la sécheresse, des malheurs des flagellantes, des retirantes, etc. Ces pauvres gens qui ne connaissent que de maigres récoltes sur des terres désertiques où la pluie ne tombe parfois que tous les 2-3 ans. Eh bien, il y a quand même des rivières et grâce à l'agronomie, grâce à l'irrigation performante, goutte à goutte, etc., dans un désert, la Caatinga, qui est à mi-chemin, qui est plutôt à cheval sur le Pernambouc et l'État de Bahia, on produit des fruits, on produit des raisins et on produit 3 récoltes de raisins par an. Bon, je ferme la parenthèse. C'est simplement pour vous dire que là, il y a un élément de recherche et de découverte scientifique qui a été essentiel. Ce pays possède encore une frontière agricole, il n'a pas beaucoup de pays, et surtout parmi les grands, de quelque 90 000 hectares, sans toucher à la forêt amazonienne. Le Brésil a été voué pendant 50 ans, entre 1880 et 1930, à n'exporter que du café. C'était 70% de ses exportations. Il se classe maintenant en tête pour la production et l'exportation de viande, de sucre, de maïs, de cellulose, de jus d'orange, etc. En outre, et il a des ressources naturelles autres que l'agriculture. Il est le premier exportateur de minerais de fer du monde, et en tête pour l'étain, l'uranium, etc. Le Brésil possède par ailleurs un énorme potentiel énergétique. Il a non seulement l'eau douce, les rivières, l'hydraulique avec ses grands barrages d'Itaipu et Tucuruí. Il a aussi réussi à être particulièrement performant dans les biocarburants. C'est le grand champion de l'éthanol, des biocarburants, avec une flotte automobile dite Fluxwell, à carburant modulable. Et il a du pétrole. Pendant très longtemps, il n'en a pas eu. Aujourd'hui, il est autosuffisant en hydrocarbures. Et grâce à la découverte récente, anneaux très, très profonds au large de Rio Janeiro, d'énormes réserves, 50 milliards de barils, etc., il faut dire que c'est à 7000 mètres de profondeur et qu'il faut transpercer des roches très, très dures. Mais il a une entreprise, Petrobras, l'entreprise nationale, qui est reconnue comme une des meilleures dans le domaine du forage à anneaux profondes. Et le Brésil pourrait se transformer d'importateur qu'il était dans les années 70, où il consacrait la moitié des revenus de ses exportations à payer la facture pétrolière. Il pourrait devenir un grand exportateur pétrolier, peut-être le troisième ou quatrième du monde. Puissance agricole, puissance minérale, le Brésil est aussi un pays industrialisé, avec une industrie relativement intégrée, qui produit des biens d'équipement, de haute technologie à forte valeur ajoutée. Le Brésil construit environ 3 500 000 véhicules automobiles par an, plus que la Corée. Entre 2000 et 2008, j'arrête en 2008 parce qu'il y a eu la crise qui a quand même eu quelques incidences, les produits métallurgiques et les équipements de transport représentaient un quart des exportations brésiliennes. Dans le domaine aéronautique, la société Embraer, troisième fabricant d'avions commerciaux dans le monde, en rivalité pour cette place d'ailleurs avec le Canadien Bombardier, et suivant les années, le premier ou le second exportateur individuel du Brésil. Enfin, un nombre non négligeable d'entreprises brésiliennes, je ne les énumérerai pas, mais enfin, vous les connaissez certainement, outre Petrobras, Imbev, Brazil Food, Vale, etc., se situent à l'avant-garde des multinationales latines, implantées au-delà de l'Amérique du Sud. Et à celles-ci, il faudrait ajouter les puissantes compagnies de BTP à l'œuvre dans plusieurs continents, en Amérique, bien sûr, mais aussi en Afrique et au Moyen-Orient. Odebrecht et André Gutiérrez ont planté leur drapeau dans à peu près tous les pays d'Amérique et aussi dans l'Afrique subsaharienne. Le Brésil, j'en parlais pour l'agriculture, dispose de centres de recherche de haut niveau, dans l'agriculture et dans l'aéronautique, mais pas uniquement dans ces deux domaines. Ses dépenses en recherche et développement sont faibles par rapport à l'Europe ou par rapport aux pays industrialisés, mais sont les plus importantes de la région et au niveau de certains pays du sud de l'Europe. Je crois qu'il faut ajouter un autre élément, une autre dimension qui me semble essentielle, car ce panorama superficiel ne serait pas complet si on oubliait les déterminants culturels. Le Brésil, contrairement à ce qu'on pense parfois et contrairement à ce que l'histoire peut nous enseigner, mais il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi la géographie, est un pays neuf. Et se vit comme un pays neuf. Et il y a des déterminants moraux qui ont contribué fortement à la trajectoire ascendante de ce pays. L'immensité géographique, l'exubérance de la nature sont depuis l'indépendance des sujets de fierté nationale. Il suffit de décrypter le drapeau brésilien et de lire l'hymne national pour s'en assurer. Une idéologie de grandeur nourrit en permanence l'assurance d'une véritable destinée manifeste, même dans les moments les plus catastrophiques, et l'optimisme invétéré de ses dirigeants et de son peuple. Le président Kubitschek, créateur de Brasilia, se donnait il y a un demi-siècle pour objectif de faire avancer le pays de 50 ans en 5 ans. C'est un peu le mot d'ordre des gouvernements brésiliens, même s'ils ne disent pas toujours avec autant d'emphase. J'ajouterai que dans les enquêtes internationales d'opinion, les Brésiliens sont toujours en tête des pays où la confiance dans l'avenir est la plus forte, étant entendu que la France est généralement au dernier rang. Alors, les raisons pour lesquelles le Brésil a autant tardé à réaliser ses potentialités et les raisons pour lesquelles il a fini par être un pays du présent avec la possibilité de répondre aux attentes de ceux qui le connaissaient et aussi de ses citoyens. Le Brésil a été un espoir maintes fois déçu au XXe siècle avec cette évolution en dents de scie dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Pourquoi ? Je dirais, on peut résumer en trois mots : stabilité, continuité et un autre concept qui les enveloppe, la démocratie. Du Brésil, on a pu parler à plusieurs reprises d'un mythe de Sisyphe permanent. On a l'impression qu'on va arriver en haut de la pente et puis le Brésil redescend. Je crois que c'est simplement parce que les conditions politiques d'un développement sur le long terme n'étaient pas réunies. Pendant une bonne partie du XXe siècle, le Brésil est aux prises avec une instabilité chronique. La volatilité économique a été un peu, le plus souvent, la conséquence de successions de gouvernements instables et d'interventions militaires récurrentes. La restauration de la démocratie en 1985 a ouvert une période de stabilité constitutionnelle sans précédent dans l'histoire du Brésil, qui n'a jamais connu 27 ans déjà, de démocratie et de stabilité. La démocratie a permis de mettre de l'ordre dans les finances et l'économie à partir du plan Real de 1994, c'est-à-dire de juguler l'inflation et de faire repartir l'économie sur un bon pied. En outre, ce pays jusque-là très fermé a commencé à s'ouvrir pour gagner en compétitivité, et ses acquis de la fin des années 90 n'ont pas été remis en question par les gouvernements successifs. L'alternance de 2003, très dramatisée pourtant, puisque le gouvernement de centre-droit a été remplacé par un gouvernement qui s'est révélé de centre-gauche, mais qui, au départ, s'inscrit beaucoup plus à gauche, l'alternance 2003 n'a pas entraîné de rupture avec cette nouvelle orientation économique. Luiz Inácio Lula da Silva a poursuivi la même politique macroéconomique que son prédécesseur Fernando Henrique Cardoso. Tous deux ont pratiqué une gestion rigoureuse destinée à réduire la vulnérabilité externe d'un pays qui, pendant très longtemps, a été un pays caractérisé par une dette forte et une très faible capacité d'exportation. Ce n'est plus la situation en 2012. 16 ans, c'est-à-dire 4 présidences, de rigueur financière, de désendettement et d'efforts d'exportation, les exportations ont triplé en 10 ans, ont donné au Brésil une nouvelle crédibilité. Il apparaît comme un pays offrant des conditions de stabilité et de continuité politique favorables aux investissements. Et deux situations récentes ont confirmé cette perception. C'est d'une part l'impact de la crise en 2008, d'autre part les élections de 2010. La crise de 2008, celle de subprime, a eu peu d'impact au Brésil. D'importantes réserves financières ont permis des politiques contracycliques. Le Brésil a bien résisté au choc, avec un léger recul du produit intérieur brut en 2009 et ensuite une récupération forte à plus de 7% en 2011. Les avancées sociales, notamment dans les domaines du recul de la pauvreté, n'ont pas été remises en question. Deuxièmement, l'élection présidentielle de novembre 2010, elle a donné la victoire à la candidate du Parti des travailleurs du président Lula et la candidate de la continuité, Mme Dilma Rousseff. Mais a remarqué que son rival de notre parti, disons du centre-droit, José Serra, avait exactement le même programme et prétendait simplement faire plus et non mieux ou différemment. Ainsi, le Brésil s'est affirmé comme un pays sérieux, qui sait où il va, qui s'est donné un modèle économique consensuel et efficace. On peut supposer que cette confiance internationale qui a valu au Brésil d'être choisi pour accueillir le mondial de football, ce qui va de soi, évidemment, puisqu'il a gagné tant de fois ce championnat, mais aussi les Jeux Olympiques en 2016, restera une valeur importante pour ce pays. Alors, pour finir, évidemment, les limites et les interrogations. Les limites de l'émergence et les interrogations sur sa pérennité. Bien sûr, toute médaille à son revers, le Brésil est loin d'avoir résolu tous ses problèmes. Je ne parle pas simplement de la bureaucratie lourde et tatillonne, que d'aucuns qualifient de kafkaïenne, d'une fiscalité à trois niveaux qui est labyrinthique, avec des impôts en cascade. C'est le pays du monde, paraît-il, où pour les entreprises, le nombre d'heures passées par des comptables pour régler les problèmes des impôts sont les plus élevés, beaucoup plus que dans les pays voisins et évidemment beaucoup plus que dans notre pays, où c'est quand même compliqué aussi. Plus grave sans doute, il y a encore 30 millions de pauvres, sans compter ceux qui ont passé la tête hors de l'eau dans les 7 ou 8 dernières années. Il y a eu donc un recul de la pauvreté, mais quant aux inégalités, elles restent très fortes. Le Brésil reste un des pays les plus inégalitaires du monde, et le recul des inégalités, mesuré par le fameux indice de Gini, était relativement modeste. Cette structure d'inégalité forte n'est pas sans rapport avec le niveau de violence, qui a diminué certes, mais calculé en pourcentage d'homicides pour 100 000 habitants, il est encore parmi les plus élevés des grands pays, même le plus élevé des grands pays d'Amérique latine. Il est plus élevé qu'au Mexique, alors qu'on parle beaucoup de la violence au Mexique et beaucoup moins de celle du Brésil. Et en plus, il est très concentré dans quelques grandes agglomérations. Donc, la sixième économie du monde, on peut comparer des chiffres, se trouve au 73e rang de l'indice du développement humain du programme des Nations Unies pour le développement. Et en dépit d'une charge fiscale au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire 35%, ce qui est à peu près deux ou trois fois plus élevé que pour la plupart des pays d'Amérique latine, le Mexique est à 12%, eh bien, on peut dire que malgré cette charge fiscale très élevée, il reste beaucoup à faire dans le domaine des infrastructures, qui laisse beaucoup à désirer, les ports, les aéroports, même si on est en train de les moderniser. Et tout cela freine la compétitivité. Je passerai rapidement sur les dépenses sociales, qui sont élevées, et il reste beaucoup à faire parce qu'elles ont été pendant très longtemps majoritairement régressives et mal ciblées, c'est-à-dire qu'elles profitaient surtout aux classes moyennes plus qu'aux classes les plus défavorisées. Et je crois qu'il y a par ailleurs un certain nombre d'autres obstacles qu'on peut discuter, je terminerai là-dessus. L'actuelle prospérité, malgré des chiffres de croissance qui sont inférieurs à l'optimum de rattrapage et même à la moyenne de latino-américaine, sont tirés par la demande mondiale de matières premières et en particulier par la demande asiatique. La Chine est devenue depuis le milieu de 2009 le premier client du Brésil. Or, 75% des achats chinois au Brésil sont des matières premières. Et des matières premières peu ou pas transformées, soja, minerai de fer, jus d'orange, cellulose, viande, etc. Et il y a des interrogations au Brésil sur ce modèle et sur ce que les économistes brésiliens et même les dirigeants appellent un risque de désindustrialisation et de reprimarisation de l'économie dans la mesure où la Chine est un concurrent redoutable pour le Brésil, non seulement sur son propre marché, mais sur les marchés tiers. Alors, je voudrais terminer sur, puisque là, il y a une des questions que l'on peut se poser sur l'obstacle à la pérennité de l'émergence ou de la montée en puissance du Brésil, qui tient à l'économie, mais il n'y a pas que l'économie. L'économie, il y a la compétitivité, et il y a ce problème de structure ou de diversification des marchés et des produits. Il y en a d'autres qu'on pourrait considérer comme des handicaps pour un pays qui a une stratégie de puissance. Alors, on peut regretter ou pas, mais c'est comme ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Le Brésil est un géant des armées. Le Brésil est un géant des armées, son armée est sous-équipée. Le président Lula, je me souviens, dans un discours à la Sorbonne le 13 juillet 2005, disait « Nous sommes un pays pacifique car nous n'avons pas de capacité de projection militaire ». Les dépenses militaires sont extrêmement faibles, à la différence des autres pays BRIC. Laissons l'Afrique du Sud de côté. Ce pays, à la différence des autres pays du BRIC, n'a pas d'armes nucléaires et y a renoncé par le traité de Tlatelolco de 1967 qui dénucléarise toute la région, mais aussi par sa constitution dans laquelle l'article 21 dit clairement que le nucléaire ne peut être utilisé qu'à des fins pacifiques. Dernier point, et sur lequel je vous interroge d'ailleurs là-dessus, le Brésil est perçu le plus souvent comme un leader continental. Et c'est lorsqu'il parle au nom de l'Amérique du Sud et avec elle qu'il est fort et écouté, quelles que soient ses ambitions globales. C'est bien le sous-continent qui lui donne du poids. Il ne peut s'en détacher et chaque fois qu'il a tenté de le faire, on en parlera tout à l'heure, dans quelques aventures internationales qui ont été très critiquées à l'intérieur et à l'extérieur, je pense au Moyen-Orient, eh bien, il en a payé le prix, il l'a fait à ses dépens. Alors, est-ce qu'on peut avoir un pays qui joue un rôle de grand quand il est essentiellement le porte-parole d'un continent qui a, lui aussi, ses propres préoccupations, ses propres ambitions et ses propres projets? Voilà, je m'arrêterai là-dessus. Ce panorama est squelettique, mais je pense que le débat donnera un peu de chair à ces quelques commentaires. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre l'ambassadeur Alain Rouquier devant l'Académie des sciences morales et politiques. Consultez le site de cette académie www.asmp.fr pour lire le texte de cette communication lorsqu'il sera mis en ligne. Toutes les communications de la série proposée par le président de l'année 2012, Marianne Bastide-Bruguière, sous le titre général « Asymétrie et force neuve du monde actuel » sont rediffusées par Canal Académie.